Radio Grenouille. 10 minutes avec.
La rédaction des 3-8. 10 minutes avec.
10 minutes avec Saskia Cousin, qui est anthropologue et qui est maître de conférences à l'Université Paris 1. Elle est l'auteur de quelques ouvrages, dont Sociologie du tourisme aux éditions La Découverte, Les miroirs du tourisme aux éditions Descartes et compagnie et Le sens de l'usine. C'est une contribution collective et c'était aux éditions Créafis. Saskia Cousin est avec nous dans les studios de Radio Grenouille. Bonjour.
Bonjour.
Elle est ici à Marseille dans le cadre d'un colloque qui s'intitule « La ville à l'épreuve de la démocratie ». 3 jours d'échanges, de débats et de retours d'expérience du 25 au 27 octobre à la Friche Belle de Mai. Et vous êtes intervenue autour d'une table ronde qui avait pour titre « Les outils de la recomposition urbaine » et votre intervention avait pour titre « Les friches culturelles redécomposer la ville ».
Alors,
à quoi ça sert les friches culturelles, Saskia Cousin ?
Ça sert à beaucoup de choses. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que justement, on ne peut pas dire que la friche sert à une seule chose. Il y a des friches qui servent en bourgeoisie. Alors on dit gentrifié, peut-être parce que gentry, c'est une petite noblesse anglaise, donc ça paraît exotique, on ne dit pas les choses telles qu'elles sont, mais ça sert aussi à résister. Donc, en fonction des types de friches et des gens qui sont dedans, eh bien, ça va avoir différentes fonctions. Et puis, par ailleurs, il y a aussi une temporalité. Une friche qui est conçue pour résister à un moment donné peut avoir une institutionnalisation et peut devenir un outil d'embourgeoisement.
Donc le même outil peut soit embourgeoiser, soit résister.
Voilà. Alors si on conçoit comme un outil, les gens qui vont occuper un moment un espace ne se disent pas forcément au départ « Ah, je vais faire une friche pour embourgeoiser » ou « Je vais faire une friche pour résister ». C'est plutôt lié à des situations personnelles, des volontés d'occuper des lieux pour travailler, notamment pour ce qui concerne le cas des friches culturelles. Mais il y a plein de sortes d'autres friches, évidemment.
Alors, la friche Belle de Mai, c'est une friche culturelle. Celle-ci, vous ne l'avez pas étudiée. Vous avez étudié d'autres friches.
Oui, alors j'ai travaillé plutôt en voisine, puisque ce n'est pas mon sujet principal de recherche, sur deux friches qui se situent à Saint-Denis, juste à côté de la gare de Saint-Denis. Donc, c'est vraiment à 5 minutes en RER de la gare du Nord. Donc, la friche du 6B, qui est un bâtiment qui appartient maintenant à un groupe privé qui s'appelle Brémond, qui a aussi participé à la construction de l'île de Nantes, qui a été mise en place par Julien Bénère, qui est un disciple de Patrick Bouchain, donc qui est un peu un architecte qui est...
Patrick Bouchain, que nous connaissons à la friche, hein, car il a aussi participé à la direction de la friche ici à Marseille.
Voilà, c'est pour ça que je le citais. Et puis une autre friche qui se trouve juste de l'autre côté d'un canal. Donc il y a la Seine, la première friche, le 6B, un canal, ensuite un bidonville Rome, un petit ruisseau, et puis une troisième friche qui s'appelle La Briche, qui est une ancienne usine de ferraille, et qui, elle, est occupée par des gens qui ont signé un bail avec l'héritière de cette usine, et qui ont construit eux-mêmes leur maison, et qui sont plutôt dans une logique de résistance à la société créative qu'ils voient incarner dans l'autre friche, celle du 6B. Donc ce qui m'intéressait, c'était les relations et les tensions entre ces deux friches, sachant qu'évidemment, il y a des relations, mais ce qui était intéressant, c'est de voir que le 6B, d'une certaine manière, se pense et se présente comme une manière de construire Paris. Une association qui s'appelle 75-21, on fait venir des gens, on fait des fêtes, et puis derrière, ben, on vend de l'immobilier, puisque c'est un opérateur immobilier qui vend les espaces autour. Et puis de l'autre côté, la Briche, où on s'installe et on tient un discours contre Paris. Et on dit, on sait qu'on est, je cite un des créateurs de cette friche, qu'on est l'avant-garde de la connerie, on sait qu'on est des gentrifieurs, mais on fera tout pour ne l'être pas trop. Et nous, ce qu'on veut, c'est résister à Paris. Donc on est dans deux friches qui se regardent et qui ont en fait des postures politiques et idéologiques absolument opposées, sachant que ce qu'ils jouent, c'est énorme, c'est la volonté du PS de conquérir... Saint-Denis, qui est la capitale historique et symbolique du communisme municipal.
Alors, dans ces deux friches, est-ce que vous avez pu voir deux formes, finalement, d'apourri ? Je veux dire, la première, est-ce qu'elle a tenu jusqu'au bout ? Et la deuxième, est-ce qu'elle a tenu aussi son pari jusqu'au bout ? Est-ce qu'on n'est pas face à deux apourri, quoi ?
Bah en fait, d'une certaine manière, la première réussit, c'est-à-dire qu'au départ, c'était, on va dire, plutôt des artistes, des créateurs, etc. L'immense majorité, je crois que c'est 150 ateliers, etc., habitent à Paris ou à Montreuil. Il doit y avoir 10 qui habitent à Saint-Denis. De l'autre côté, à la friche, ils habitent tous, sauf un à Saint-Denis, dans la friche ou dans Saint-Denis. Donc le 6B, le discours, c'est on est l'avant-garde de la capitale et du capital. Je cite Julien Bélair. Et Et l'objectif, c'est de remplacer progressivement les créateurs par des créatifs. Et donc, l'objectif, c'est... Et maintenant, ça a été accepté par l'opérateur culturel qui a dit que ça allait être pérennisé. Ça devait être un espace temporaire, ça devient pérenne. Et donc, en fait, c'est l'outil d'attraction des gens qui vont acheter les espaces qui se construisent.
Ça devient une sorte de cluster, quoi.
Voilà, ça s'est pas présenté comme ça encore, mais ça devient l'outil qui permet de faire venir des gens qui vont acheter. Alors qu'à la Briche, on a une situation complètement différente. C'est des gens qui disent, si on nous vire, on ira ailleurs, le vent nous portera, enfin voilà. Et en fait, eux, leur problème, c'est que la mairie communiste veut les virer pour construire du logement social. Alors que la mairie communiste les trouve très sympathiques, ces anards, tout ça, mais on a besoin de construire de logements sociaux. Ils trouvent que les Parisiens à Roguin de 6B sont absolument insupportables, mais on en a besoin pour faire venir les classes moyennes. Donc finalement, c'est les anards qui vont être virés pour construire du logement social, et c'est les créatifs qui vont rester, alors que c'est ces créatifs-là qui vont faire tomber le PC, parce que justement, ils sont pour avancer du PS. Enfin, ça paraît un peu compliqué, peut-être que c'est un peu interne à une politique locale, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, se jouent des choses très différentes, le tout porté par un discours sur le bidonville Rome qui se trouve au milieu. Et chacun des gens des deux friches faisant des interventions sur ce bidonville et le présentant comme un archétype de ce qu'il faudrait faire d'une sorte d'habitat temporaire, un imaginaire exotique en fait. Bon, c'est un bidonville roumain, on pourrait dire ça en termes objectifs ou en termes médiatiques, un camp Rome, ou en termes d'essentialisme stratégique, un camp Rome avec deux R. Mais voilà, ça devient une sorte d'imaginaire de la mobilité, évidemment pas radieuse, mais il y a eu toutes sortes d'actions, toilettes sèches, wifi, etc. Et puis le terrain appartenait à la mairie de Paris, c'est les élections municipales, le PC, donc la mairie communiste a demandé l'expulsion du camp qui a eu lieu en juillet. Donc voilà.
On voit comment à un moment donné ce campement a pu servir dans les discours des uns et des autres pour d'une certaine manière se légitimer, quoi.
Absolument, et se légitimer. Alors je crois, Julien Belair et puis de l'autre côté de la Briche, les gens croient vraiment, enfin ils pensent, ça les intéresse vraiment de travailler avec ces gens qui habitent dans ce bidonville. Mais la réalité, c'est que, in fine, eux, ils ont été expulsés. C'est une hétérotopie qui à un moment a existé comme idéal, mais en fait, dans la réalité, ils ont été expulsés, ils sont retournés au néant et on trouvera un autre bidonville Rome pour montrer que une sorte d'imaginaire de la mobilité radieuse, de l'architecture de mobile, c'est présenté comme ça. Et en fait, dans la réalité, c'est des gens qui, eux, ceux qui habitent dans le Vinet-en-Ville, ils aimeraient bien habiter dans de l'habitat pas temporaire, parce qu'ils ne sont pas du tout des nomades. C'est des gens qui étaient des précaires en Roumanie, mais qui habitaient dans du sédentaire et qui sont mis en circulation par la police.
Alors, vous avez travaillé sur le tourisme. Je citais des ouvrages, Sociologie du tourisme, Les miroirs du tourisme. Nous avions reçu dans ces 10 minutes avec Jeanne Catarala, qui nous disait, autour de la question du fait que aujourd'hui, de la mise en concurrence des territoires pousse les territoires à travailler sur la question de l'identité pour être dans une dynamique attractive. Et elle nous expliquait que cela était propre à une époque très contemporaine qu'elle nomme étant l'époque du néolibéralisme. Je crois que, d'après vos recherches, en fait, cette question de l'identité liée au tourisme, c'est bien plus avant, plus en avant.
En fait, c'est une très vieille histoire. Simplement, là, il y a une accélération en termes d'échelle et de découverte par les villes les unes après les autres des effets que ça peut avoir en termes de construction de l'image et de se dire si on est désiré par d'autres, de désir du désir de l'autre. Mais en fait, c'est une très vieille histoire qui s'invente. On va dire, les territoires commencent à en avoir une conscience à partir de 1850. Et donc, à partir de 1850, c'est déjà une histoire d'érudits locaux, de folkloristes. C'est une conjonction objective entre ces érudits locaux, ces folkloristes, des bourgeois qui ont des immeubles, des aristocrates qui ont des châteaux et qui ont tout perdu mais qui ont gardé leur château, des éditeurs de guides qui ont de l'argent à faire, etc. Mais c'est vraiment une histoire qui s'invente au milieu du 19e siècle. Et l'invention des identités locales, que ce soit le Félibrige, les Bretons, etc., est totalement connecté avec la question du tourisme, même si on ne le sait pas. C'est que dès le départ, il y a la vocation, le discours de s'adresser, et on trouve ça dans les archives municipales, les archives paroissiales, des curés. Il s'agissait de faire venir des touristes dès le départ.
Donc l'industrie du tourisme est une vieille industrie.
C'est-à-dire que c'était un artisanat. Donc c'est là où il y a une différence. C'est-à-dire qu'il y a une montée, on passe d'un artisanat à une industrie. Et donc là, en ça, il y a une différence. Mais c'est un modèle qui est pensé dès le milieu du 19e siècle.
Merci d'être venu pour ces 10 minutes. Il s'agissait donc de 10 minutes avec Saskia Cousin, anthropologue. Je rappelle quand même quelques ouvrages. Sociologie du tourisme aux éditions La Découverte, Les miroirs du tourisme aux éditions Descartes et compagnie, et puis Le sens de l'usine aux éditions Créafis.
Merci beaucoup.
Radio Grenouille, Radio Grenouille. 10 minutes.
La rédaction vous invite. 10 minutes avec...